ont été supprimées. Le Conseil a également divisé par 6 les indemnités de ce maire jugé trop autoritaire.
Cosmopolite, cosmopolitaine.
Paul Ajac.
Grands écrivains.
Carlos Fuentes.
Hanna Krall.
Patrick Chamoiseau.
Siri Hustvedt.
Grand cinéaste qui compte à travers le monde entier.
Je m'appelle Atom Egoyan.
Charles Gaulle.
Monica Fagerholm.
Ken Loach.
Et aussi ceux qui compteront demain.
Sébastien Silva.
Noéa Régis.
Warwick Thornton.
Font de nos dimanches un enchantement.
Cosmopolitaine, Paul Ajac, tous les dimanches à partir de 14h.
France Inter.
La différence.
15h presque 5 minutes sur France Inter, vous retrouvez Daniel Mermet.
Il paraît que l'émission de là-bas, si j'y suis, c'est une émission sérieuse, mais là, Ruffin, t'es vraiment un salaud. Allez, le pauvre lieutenant de police, là, ou le capitaine, ou le commandant de gendarmerie, pardon, il a été tourné en bourrique, là. C'était énorme. C'est aussi bon qu'un sketch de Coluche, là. Vraiment, ça fait du bien. Allez, salut.
Salut, bah merci François Ruffin de pouvoir, m'avoir fait rire comme ça, quoi, de choses aussi graves. Enfin bon, c'est lamentable, mais c'était génial comment j'ai pu rire. Donc merci encore, et puis vive la poésie, l'insoumission, et puis voilà. Ciao, à plus tard.
Bonjour, je suis une bof ordinaire, le petit tout est un bof extraordinaire. L'émission d'hier fut un petit bijou d'intelligence. Bravo à toute l'équipe en entier, de la conception à l'accouchement. L'apothéose fut la conversation téléphonique de François Ruffin. Bien sûr, est venu à l'esprit Jean-Yves Lafesse. Ce coup de fil a fait mouche sur les auditeurs et restera dans les mémoires par sa subtilité, sa pertinence, son à-propos. Succulent, génial. Chapeau à tous ces journalistes courageux, humanistes, grands en un mot, tels les Albert Jacquard, Daniel Ruiz, Didier Porte, etc. Ne prends jamais ta retraite, Daniel. Merci encore et bon courage. Ciao.
Nous pensions que la morgue des Parisiens, pour les provinciaux, était une histoire ancienne. Mais non. Pour preuve, l'attitude de François Ruffin, qui n'arrête pas de s'étonner qu'un paysan réfléchisse au milieu des cagettes. D'autre part, l'idée de porter plainte, c'est drôle une fois, mais son insistance en devenait pénible. C'est bien dommage que ce sujet important ait été traité de manière aussi agaçante. En fait, on a l'impression qu'il se foutait de la gueule de tout le monde. Et c'est pas comme cela qu'on fait passer le message. Merci quand même pour ce droit de réponse. Au revoir.
Bonjour, c'est Anne-Marie de Trélévin dans les Côtes d'Armor. J'écoute l'émission là, sur l'agriculture. J'ai 48 ans et mes parents avaient une petite ferme donc dans le Trégor. Et j'ai vécu en direct plein de choses. Enfin, j'ai vu le changement d'une année à l'autre, du cheval au tracteur, le remembrement, les techniciens qui passaient pratiquement tous les jours pour bien dire à mes parents, c'est terminé les betteraves, c'est terminé le foin, c'est terminé ceci, maintenant c'est maïs. J'ai vu le travail de sape, j'ai vu notre vie complètement se transformer. Et la FNSEA, évidemment, était en première ligne. Et j'ai vu aussi mes parents pleurer, souvent, parce que la vie qu'ils avaient avant, où ils vendaient juste un petit cochon au marché, et puis avec ça, ils vivaient un mois, deux mois, j'ai vu leur vie se transformer. C'est-à-dire qu'à un moment, on leur a fait signer un contrat pour élever des veaux en batterie, et ça a été l'horreur, parce qu'ils ont signé un contrat qui a duré 8 ans, et ils ont vécu des nuits blanches parce que justement, on mettait tous les veaux dans le camion et puis en plein trajet, on leur annonçait qu'il y avait un veau malade. Donc ils ne touchaient rien. Donc moi, je les ai vraiment vus s'enfoncer petit à petit et se débarrasser de tout ça au bout de 8 ans, mais toujours avec les techniciens au cul, quoi. Donc la ferme, elle a bien changé à ce moment-là. Et c'est vrai que dans le village où j'habitais, il y avait 37 fermes et maintenant, il n'y en a plus qu'une parce que bon... On les a tous cassés, quoi. Donc, on critique souvent les agriculteurs, mais ils en ont bien bavé. Et puis maintenant, ils sont complètement dans le système et ils ne peuvent plus s'en sortir. Voilà.
Oui, oui, alerte chômage, alerte chômage. Sopiquet, nouvelle entreprise qui va licencier. Sopiquet va licencier. Total, ça licencie. D'autres entreprises nombreuses vont licencier. Chômage, chômage. Alerte chômage. Mais vous allez devoir travailler plus longtemps. Mais vous allez devoir travailler plus longtemps. Alerte, chômage. 800 000 chômeurs en fin de droit vont être dépourvus de revenus. Alerte, chômage. N'oubliez pas de voter. Hein.
Salut Daniel, salut à tous les auditeurs modestes et géniaux. C'était il y a 20 ans, une vingtaine d'années, souvenez-vous, les années Mitterrand, Tapie, Séguéla, l'Europe et la France en particulier bavaient devant le modèle japonais. L'abnégation, le dévouement, l'engagement du citoyen japonais envers son pays, son entreprise, permettaient d'aboutir aux résultats économiques flamboyants qui faisaient bien des envieux. Bien sûr, on prenait soin de taire le fait que les Japonais de 70 ou 80 ans devaient se lever chaque matin pour aller bosser s'ils voulaient arriver à vivre. J'avais 20 ans et pour moi, comme pour beaucoup de ma génération, cela incarnait plutôt la dégénérescence à laquelle conduit une totale servilité. Mais nous étions si confortablement assis sur les acquis sociaux, sur nos acquis sociaux, nous laissant gentiment anesthésiés, passifs, inertes, un peu plus chaque jour. À quoi bon être vigilant ou se battre? Nos aînés l'avaient fait pour nous, et de toute façon nous étions à l'abri d'une telle dérive. Il ne nous aura pas fallu plus de 20 ans pour en arriver au même résultat. Pas de quoi être fier. Certes, nos politiciens sont pour la plupart pitoyables. Des gens tels qu'Aubry, Fabius, et j'en passe. S'ils avaient un soupçon de dignité, ils iraient se cacher, ou au moins ils auraient la décence de se taire. Les bons serviteurs qu'ils furent du plus grand des monarques socialistes se croient encore détenteurs d'un héritage qui inspirerait le respect. Lamentable. Sarkozy, lui au moins, n'est pas albine. On peut même dire qu'il colle à l'air du temps. Peut-être est-il tout simplement à la présidence de la République ce que Bigard est à la comédie, Christine Angot à la littérature, BHL à la philo. Tout ça se tient quelque part, ça reste cohérent. Rien n'est totalement dû au hasard. Et finalement, peut-être aussi avons-nous simplement les politiciens que nous méritons. Pour venir à bout de la monarchie républicaine, nous devrons nous battre. On n'en fera pas d'économie. Bon courage à tous. Salut.
Oh là là là, c'est un peu triste ce message. Hein. Il est bien, mais il est un peu triste. Moi, j'ai de quoi vous réjouir, là. Il y a quand même un Français dont on parle dans le monde entier, dans la presse du monde entier, aussi bien dans le Times que dans le Spiegel, que dans le New York Times, que dans The Nation, dans Nation, un journal brésilien, La Repubblica, et dont tout le monde se bidonne, se marre de ce Français, c'est Bernard-Henri Lévy, bien évidemment. La gaffe monumentale de Bernard-Henri Lévy fait rire toute la planète. C'est dans le Canard enchaîné d'aujourd'hui. Il y a de quoi se réjouir quand même. Se réjouir aussi d'un livre qui vient de paraître, qui est formidable, que je viens de recevoir là à l'instant. Tignus, qui dessine aussi dans le Canard enchaîné, et un livre sur le capital, plutôt le capitalisme, vous savez, le gros pépère avec son chapeau bireflet, ses cigares, et alors dans le cas de Tignus, il y a des mouches qui lui tombent tout autour, c'est très très bon et très rigolo. Voilà, aujourd'hui, merci pour les remerciements à Ruffin pour le reportage d'hier. Vous avez vu, le monde se divise en deux. Il y a les ruffinolâtres ou ruffinophiles, et puis il y a les ruffinophobes. Bon, voilà, les deux, vous pouvez retrouver ça dans son journal. Fakir tient absolument à ce qu'on fasse de la réclame pour son journal. Et ben voilà, c'est fait. Et c'est un excellent journal, bien évidemment, puisque c'est un ami de la base où j'y suis, et il fait partie de l'équipe dont il peut être que bon. Aujourd'hui, vous savez que cette année, c'est les 20 ans de la Basse, j'y suis, 89-2009-2010, hein, voilà. Et on va retrouver un grand classique de la Basse, j'y suis, ça date de 1995, peut-être même avant. La question était, qu'est-ce que vous voulez faire absolument avant de crever? Ouais, je voudrais pas crever avant de... C'est un fameux poème de Boris Vian. Et on avait pris littéralement ce vers de Vian. Je voudrais pas crever avant de, etc., etc. Et vous, qu'est-ce que vous voudriez faire absolument avant de passer l'arme à gauche? Voilà les réponses jusqu'à 16h. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Message au repéré nantais. Le prochain repère portera sur la confrontation de deux notions, la diversité et l'égalité. La célébration actuelle de la diversité culturelle et l'attention aux discriminations que subissent les minorités, c'est chouette, c'est généreux, c'est bien intentionné, c'est de gauche, quoi. Sauf que la droite s'en saisit aussi,
et en eut sans complexe pour sa propre promotion. Paraît même que le Césarion a l'intention d'inscrire la diversité dans notre mirifique constitution. C'est beau, non? Mais qu'est-ce que ça cache, ce consensus? Trouvez pas ça suspect, vous? Et si c'était la lutte contre les inégalités en général qui passait à la trappe, à la faveur de cette substitution? L'accroissement continu des écarts entre les riches et les pauvres, par exemple. Alors quoi? Égalité ou diversité? Les deux, mon général? Manipulation idéologique visant à désamorcer le retour indésirable de la lutte des classes? Et notre belle gauche sentimentale dans tout ça? Abusée? Égarée? Ou complice? On verra ça au prochain repère, vendredi 19 février, 19h19, au Méliès. La bataille sera rude, venez nombreux.
Par pitié, mais remettez Jean-Marc Sylvestre à l'antenne. Je sais pas si ce qu'il racontait c'était des conneries, j'ai jamais écouté, mais au moins ça contrebalançait les conneries de Daniel Mermet qui nous diffuse à longueur d'émission.
Salut Daniel. En voyant aujourd'hui les salariés d'une raffinerie se faire abandonner par leur direction, je me suis demandé si le débat sur l'identité nationale n'était pas un sujet intéressant après tout, à condition de changer l'objet du débat et de remplacer les personnes physiques par les personnes morales. Comme ça, on pourra se poser la question, par exemple, de savoir si une entreprise qui délocalise sa production, en laissant les travailleurs français sur le carreau, qui défiscalise une partie de ses bénéfices dans les paradis fiscaux, et dont les actions sont détenues par une bonne part par des investisseurs étrangers, si une telle entreprise donc a le droit d'être considérée comme française, et de bénéficier de subventions, d'exonérations de charges sociales pour doper sa compétitivité, voire de se faire faire des travaux d'infrastructure payés sur le budget de l'État, donc aux frais du contribuable. Je pense que le débat deviendrait très vite beaucoup plus constructif pour l'avenir du pays que s'il reste au niveau de querelles autour de quelques conditions de tradition exotique ou de questions métaphysiques à propos de la Marseillaise et du drapeau tricolore. Allez, salut Daniel, et merci de tout cœur à toi et à ton équipe pour vos émissions.
Bonjour Daniel et les amis de la Bassie, j'y suis. D'abord un grand merci pour cette petite fenêtre que tu nous ouvres chaque jour sur les luttes sociales. Je suis Dominique de Sudrail, dans le 17e arrondissement. Nous organisons avec un collectif très très large d'associations, de quasiment tous les partis politiques du 17e, les syndicats Sud, la CGT, la CND du nettoyage. Nous organisons donc le samedi 20 février, de 10h à 15h, un cabaret d'urgence en faveur des travailleurs sans papier en grève. Ce cabaret d'urgence fait appel à des artistes, la compagnie Jolimôme, les Sgabonistes, le Macaque Steel Band, Frédéric Truche et j'en passe, et à des intervenants, la Ligue des Droits de l'Homme, Jacques Gaillot, Jean-Claude Amara et Raymond Chauveau, un des organisateurs de cette fameuse grève des sans-papiers. Voilà, nous invitons donc tout le monde de 10h à 15h à venir au théâtre de l'Européen, place Clichy, le samedi fin février, et bonjour à tous.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Christelle, Loisgereau, là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from New York. Bienvenue. Entrez. Voilà. C'est l'endroit où vous allez passer le reste de votre vie. Ça s'appelle le futur. Futur. Votre futur. Tout le monde en a un. Chacun. Moi aussi. On en a plus ou moins. On ne sait pas au juste combien. Il y en a qui l'ont devant soi comme une petite paire de Robert tout neuf. Et il y en a des vieux ramollis qui l'ont tout et kiki. On nous dit qu'on est égaux, mais pas vrai pour le futur. Et le vôtre? Combien qui mesure votre futur et quelle gueule il a? Qu'est-ce qu'il sent? Y a qui dedans, dans votre avenir? Y a quoi? De quelle couleur et en quoi qu'il est? En ciel bleu, en galère, en cul de poule, en béton, en carton, en bateau, en pétard, en fauteuil roulant, en Extrême-Orient, en miettes, en loques, en gloire, en panard, en président de la République. Et comment que ça finit le futur? Quick, Fernand, ça c'est sûr. Quack, on le sait, mais on ne croit pas, on n'y pense pas. On dirait que ça nous pense, mais nous, on n'y pense pas. On essaie de ne pas y penser à la fin du futur, au bout de l'avenir, mais on n'y arrive pas toujours. Aujourd'hui, par exemple, on va pas y arriver. Dans cette espèce d'espace fini et infini qu'est notre avenir, notre petit bout de futur, la phrase de Boris Vian. Je voudrais pas crever, je voudrais pas crever sans avoir mis mon zob dans des coins tôt bizarres. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort. On a posé avec Christelle cette question aux gens dans la rue, dans Paris, dans les boutiques, dans les métros, dans les bistrots, dans des coins tôt bizarres. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les gens?
Connaître le vrai bonheur avec une femme. Mais le vrai bonheur, même pas physiquement, l'amour normal. Aimer une personne.
Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à cul nus, dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent au nid truffé de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si le soleil est froid, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zob dans des coins tôt bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me ferait de peine. Si je savais que j'en aurais les traînes. Il y a aussi tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît. Le fond vert de la mer où valsent les brins d'algues sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères, et les baisers de sel, que ceci, que cela, la belle que voilà, mon ourson, l'Ursula. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux, j'en dis pas plus. Faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé les roses éternelles. La journée de 2 heures, la mer à la montagne à la mer, la fin de la douleur, les journaux en couleur, tous les enfants contents. Et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes des géniaux inventeurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs. Tant de choses à voir. À voir et à entendre, tant de temps à attendre, à chercher dans le noir. Et moi, je vois la faim qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras de grenouille bancroche. Je voudrais pas crever, non, monsieur, non, madame. Avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort, je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort.
Une fois dans ma vie, au moins une fois avant de mourir, j'aimerais... Vous aimeriez quoi ? y a des coups, ça peut se dire, mais le plus souvent, ça se peut pas. C'est trop fort, c'est trop fou. Un genre de dernière volonté, avec des S. Dernière S, volonté S. Des désirs, des projets, ça peut être banalement de se goinfrer Claudia Schiffer. Ou alors, péter très fort à l'église pendant l'enterrement de votre directeur. Ou les deux en même temps. Enfin, c'est quelque chose qui fasse qu'après vous puissiez dire, souriant, béat et serein, « Maintenant, je peux mourir sur mes deux oreilles. » Ce qui sera un mensonge, mais l'homme s'arrange souvent pour croire à ses propres mensonges. Ça peut être autre chose, ça peut être mille choses. Ça vous regarde comme dans un miroir, ou un miroir où on se voit, où vous vous voyez, mais nous aussi on se voit. On voit un peu notre temps comme ça, en douce, dans les rues, dans les bars, dans les poissonneries, et dans les alentours du commerce étrange, les marchands de réverbères. Évidemment, tout le monde n'a pas la grinçante grâce de Vian, Boris le bison ravi, mais, à l'improviste précaire, dans la rue, voilà ce qu'ont dit nos compatriotes à Christelle Loicheron.
Ah, je ne voudrais pas crever sans être monté une dernière fois à cheval. Et je voudrais crever loin des miens, ma femme et de mes enfants, pour pas justement qu'ils me voient crever, qu'ils apprennent ça d'une autre manière. Mais essentiellement, je voudrais pas crever sans être monté une dernière fois à cheval. Je suis conducteur d'autobus sur la ligne 70 et je me prénomme Gilles.
Oh, that's it. Not gonna die before I have been able to travel as much as I possibly can and visit as many things as possible.
Alors, on ne veut pas mourir avant d'avoir vu le monde. Et vous?
Je crois que je peux dire ça aussi, oui.
Je veux pas crever avant d'avoir des enfants et me marier. Voilà, avant d'avoir une famille et être heureux dans ma vie. Voilà.
Moi, bah la même chose. C'est très important de se marier, de faire des enfants. C'est ça la vie.
Fondre une bonne famille.
Fondre une bonne famille, voilà. De vivre avec des enfants pour les trouver plus tard.
Et apprécier la vieillesse avec la femme qu'on aime. N'est-ce pas? Voilà, on a là.
Oh, que c'est beau l'amour. Hein?
C'est vrai?
Ouais, non?
Sans avoir vraiment aimé une fois.
Parce que vous n'avez pas encore aimé.
Si, mais j'ai encore envie d'aimer, je pense. Ouais, c'est ça. Et peut-être m'aimer plus encore. Moi-même, déjà.
Je sais pas, plein de choses.
Et c'est quoi ces plein de choses?
Bah, je sais pas. J'aimerais bien avoir fait quoi? J'aimerais bien avoir visité la Chine, l'Amérique, quoi, faire presque le tour du monde. J'aimerais bien aussi coucher avec une femme, bah faire plein de trucs comme ça.
T'as quel âge?
J'ai 13 ans. 13. Puis c'est tout.
Et vous voudriez pas crever sans avoir fait quoi?
Sans avoir fait quoi? Sans avoir donné une situation à mes enfants.
C'est-à-dire?
Mes enfants soient bien établis. Après, je m'en fiche. C'est leur vie, c'est plus la mienne.
Et vous?
C'est ma fille.
Moi, je suis sa fille. Sans avoir une bonne situation, pour qu'elle soit heureuse.
Ça, c'est la réponse. Ben oui, c'est l'idéal, c'est d'assurer une bonne situation à ses enfants, qu'ils aient du travail. Le reste, après. Après, ils grandissent, et puis après, bon, bah, c'est tout. Sans avoir vécu. Mais, de toute façon, moi, je suis au chômage depuis 6 ans, je sais ce que c'est de ne pas avoir de travail. Donc c'est primordial pour moi qu'eux aient une bonne situation.
Oh, vous savez, c'est macabre comme question, ça. Hein? Mais c'est pas... quand on meurt, je ne crois pas qu'ils ont parlé de la mort. on doit mourir, si on a bien vécu. Je pense pas, si l'heure est là, on ne doit pas parler de la mort. Il faut dire, je pars sans regret, j'ai bien vécu, j'ai bien vu, j'apporte tellement, j'ai aucun regret. Moi, je partais de ce côté-là. Parce que moi, en plus de Boris Vian, et vous ne connaissez pas, je suis un personnage, j'étais 300 gardes de cimetière. J'étais un an donc au Père Lachaise, et j'étais trois ans à Montparnasse. Donc j'ai montré beaucoup de célébrités aux touristes. Donc moi j'ai bien vécu, j'ai eu une très bonne vie. Moi je pense que si un jour l'heure doit arriver, je partirai sans regret. Je pourrais dire, j'ai mangé dans les bons restaurants, je suis un gastronome, j'ai bien vécu et je suis très heureux. Mon heure est arrivée, je pars sans regret. Voilà. Voilà. Donc moi je suis un personnage autrement que l'isole, parce que j'étais 4 ans garde de cimetière. Moi de toute façon, mes heures sont comptées parce que moi je suis un diabétique. Je suis un grand diabétique, je ne suis pas l'insuline heureusement, mais mes jours sont comptés, moi. Je le sais. Donc maintenant, je vis, je me casse pas la tête. On faut prendre la vie de mon côté, quel que soit. On sait que la vie actuellement, il y a beaucoup de pépins actuellement. Il y en a qui sont cardiaques, il y en a qui sont considérés actuellement. On faut prendre la vie de mon côté, puis c'est tout. Hein. Faut pas penser à la mort. La mort, si on pense à la mort, on va ruminer, puis on va plonger. Non, moi, je pense que j'ai quelques années devant moi. Je vais bien en profiter. Puis j'ai un autre domaine que l'accordéon, je fais la peinture. La peinture sur toile, je n'ai pas le temps de m'en occuper parce que j'étais à l'hôtel, j'ai bloqué l'hôtel, mais je vais ressortir mes chevalets, mes toiles, je vais me débrouiller pour trouver un atelier, je ne sais pas quoi, et faire bien ma peinture. Parce que je vais prendre aussi au crédit deux bouquins, un sur les cimetières, et puis un sur le métro, avant de mourir. Parce que je pense que dans la vie, nous sommes tous des personnages, quel que soit l'individu, puis je pense qu'une fois qu'on est mort, qu'on puisse laisser une trace, soit un tableau de peinture qui était levé de moi, mais je voudrais faire deux bouquins, voilà.
C'est poilant quand même. La vie, c'est comme quand vous arrivez sur la plage, il y en a toujours qui sont déjà bronzés. Hein? Il y a des connaisseurs, des gars qui sont déjà là. Des marioles qui sont déjà musclées. Lui, c'est le personnage à l'accordéon, c'est un gars comme ça. Il a compris. Vous voudriez pas crever sans... Je voudrais pas crever sans avoir fait quoi, macabre. Il a raison, le personnage macabre, la question. De toute façon, on n'y peut rien. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai. On y peut un peu. On se doit ça. À soi, à la vie qu'on a, qu'on nous a filée, que notre mère bien-aimée nous a donnée. Vous connaissez l'histoire? Ou bien vous considérez que la mort est un scandale, ou bien vous voyez la vie comme un miracle. Vous pouvez voir le contraire. La vie est un scandale et la mort est un miracle. Et quand même, on n'est pas obligé de tout subir, tout fatalité, destinée, tout écrit, tout mektoub. Non, on a un petit peu, pas des masses, pas des bottes, mais le peu qu'on a qui nous revient, qu'est-ce qu'on en fait? Prise de tête, si l'on songe à la mort, à l'ultime fin des haricots, ça peut aussi vous décider, ça peut vous pousser, filer du courage, s'organiser. Pensez à bouffer une plâtrée de haricots avant l'enterrement du directeur, par exemple, pour que ce soit réussi.
Il a réfléchi avant de répondre.
Ah, oui.
Ah, voilà, donc moi je sais pas du tout en fait. Alors déjà j'aimerais bien voir ma famille réunie, je crois que c'est une chose qui me tiendrait vraiment à cœur, d'avoir tous les gens que j'aime autour de moi. Et puis après, ce sera des choses abstraites. Le tour du monde, pourquoi pas. Non, le plus important c'est ma famille quand même. Mais sinon... Fumer une petite cigarette avant de mourir? Non.
Je sais pas.
Un petit pétard. Hein,
non, je sais pas, non.
Vous disiez fumer un petit pétard.
Oui, pourquoi pas. Avant de mourir, ça vaut le coup. Y a ça ou je sais pas. Non, mais quelque chose de plus... Déjà, de voir mon frère revenir à la maison sans problème. Déjà, parce que mon frère, il est plus chez moi et ça se passe très mal, quoi, en fait. Et l'enfroid avec mes parents, moi, je le vois plus, mes parents non plus, quoi.
Oh mon Dieu, ça, c'est une chose bien difficile. Je n'ai vraiment pas pensé à cette chose-là. Moi, je voudrais visiter le monde. Mais à part ça, il y a beaucoup de choses à faire, mais laquelle choisir? Je ne sais pas. Soulager le monde, ça, bien sûr, si c'est dans mes possibilités, mais hélas. Les enfants, surtout. Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on entend ou que l'on voit qui sont vraiment très pénibles aujourd'hui. Je crois que c'est ça l'essentiel.
Moi, je pense que je ne voudrais pas mourir sans être en plénitude avec moi-même.
Ah oui.
Sans être, c'est vrai, parce que tous les jours, j'ai l'impression que ça ne va pas, quoi. Tandis que je n'aurais pas voulu mourir sans savoir vraiment qui je suis, ce que je peux faire, sans être bien avec moi-même. C'est pour ça d'ailleurs que j'essaie, je viens, je prie, j'essaie de faire certaines choses, quoi.
Quand vous avez dit comment, là? Je ne voudrais pas crever, c'est ça? Non, pas pour l'instant, non. Vraiment pas, non.
Et sans avoir fait quoi, vous voudrez?
Sans avoir fait quoi? Oh là là, c'est une question difficile. Je pense profiter le plus possible de chaque moment de la vie, quoi.
Comme vous étiez en train de faire, tous les deux enlacés?
Exactement. C'est ça, ouais.
Et vous?
Moi, je suis pas français.
Elle est hollandaise.
C'est rire.
Elle parle pas très bien français, mais je pense que profiter de la vie, quoi, au maximum.
Et c'est quoi profiter de la vie?
Les sentiments, les émotions qu'on ressent à chaque instant. Simple, mais compliqué à la fois, quoi.
Vous faites quoi dans la vie?
Rien, chômeur. Et voilà, j'habite le quartier, donc je me promène souvent par ici, quoi. Et j'aime bien la tranquillité et profiter de chaque instant, comme je vous ai dit, quoi. Je pense que c'est important.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'enfilerai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Je n'ai pas laissé un mot d'espoir pour mes enfants et pour tous ceux que j'aime. Ça serait de leur dire que la vie est belle et qu'il faut la vivre. C'est tout.
Ah, c'est bon. Bouge pas les boules, quoi.
Le pire, c'est pas ce qu'on n'a pas. C'est pas ce qu'on n'aura pas. Le pire, c'est ce que la vie vous a donné et qui vous est repris. Les jouets, les maisons, les amours, les miens, les nôtres, comme on dit, les miens. Abandonnés. On est vachement fragile. Un, il a raison, le personnage. Macabre la question de Vian. Je voudrais pas crever sans avoir...
J'ai fait tout dans ma vie et je peux mourir maintenant, ça m'est égal. J'ai tout fait. J'ai eu tout dans ma vie. J'ai eu le luxe, j'ai eu l'argent, j'ai eu la fortune, j'ai tout. Vraiment. Là, je pars à Cannes pour 12 jours encore au Majestic, comme je vais 3 fois par an. J'ai tout dans la vie. Vraiment tout. J'habitais à Londres, où j'avais une maison de couture. J'ai fait des robes pour Lady Diana. La robe de fiançailles, c'est moi qui l'ai faite. J'ai fait deux robes pour la princesse Margaret de Londres, la sœur. Donc j'ai tout. Mourir, ça m'est égal. J'ai vraiment eu tout.
Vous êtes qui ?
Michel Jean Sachaud. Et la maison de couture s'appelait Nettie Vogue.
Qu'est-ce que je pourrais souhaiter avant de crever ? Je sais pas. Une femme, j'en ai une. Baiser, ça va. Je sais pas.
Avoir une Rolls, c'est un chauffeur. C'est mon seul dada. Sinon, j'ai tout.
C'est de pas avoir couché avec madame.
Oh là !
Elle me pose une question, je lui réponds. Hein. Et peut-être que ça serait le plus beau jour de sa vie aussi. Hein.
Madame Manin. Je voulais parler la face interne.
Tu veux faire voilà la question.
Oui. En pleine forme, je suis prête à danser la java, prête à rigoler et prête à être avec les jeunes. Et vive la France.
Et avant de mourir, vous voudriez faire quoi avant de mourir?
Avant de mourir, la communion et la confession. C'est suffisant de voir mes enfants, mes petits-enfants, tous les gens qui m'aiment bien.
Avant de crever. Oh, j'ai plus grand-chose à faire à mon âge. Hein. Enfin, je vis. Tous les jours, c'est un jour de gagner. Je crois que j'ai réussi ma vie au-dessus de mes espérances à 18 ans. J'étais considéré malade et fini. Alors, chaque jour, j'ai quadruplé mon âge.
Vous avez quel âge ?
75.
Et vous aviez quoi comme maladie ?
La tuberculose, à l'époque, était une maladie comme le sida aujourd'hui. C'est une question de chance. Parce que j'ai tenu 14 ans étant malade, jusqu'à l'opération que j'ai acceptée à ce moment-là de me faire, l'opération qui m'a sauvé parce qu'il y avait la streptomycine qui est arrivée en même temps. Et à l'époque, je n'avais pas d'espoir, je n'avais pas de rêve de pouvoir arriver plus haut, plus loin. Et la guerre, l'occupation, les Allemands, tout ça, j'ai passé. Que les autres, des camarades plus jeunes, en bonne santé, sans mort, ou à la guerre, ou en déportation. Personnellement, j'étais aussi dans les camps. J'étais à Bonne-Larlande et à Drancy. À Bonne-Larlande, j'ai passé 3 semaines. Et on a entendu chez mes parents que moi, j'étais mort. Il y avait un mort d'une crise cardiaque. Et on avait, dans la rue de mes parents, on savait que c'était moi. Et alors, je suis arrivé un beau jour avec mon sac à dos et dans la rue. Et tout le monde a dit, oh non, j'étais libéré un jour avant la déportation. Je me suis marié, j'ai une fille et j'ai une petite fille. Alors, on ne peut pas avoir mieux.
Comme on ne doit pas crever, on n'est pas des chiens. On meurt comme des gens. Une bête, ça crève. Les gens, ça crève pas. Ah non, il ne faut pas dire ça. Comme tout le monde, je vais mourir en bonne santé. Pas rester malade des années dans l'hôpital. Quand on s'endort et on ne se réveille pas. Je vais vivre jusqu'à 100 ans sans être malade, c'est tout.
Avoir descendu la face nord-ouest du Mont Blanc à ski.
Et quand vous l'aurez fait, cette descente, après ? La vie sera finie ?
Oh non, du tout.
Alors, qu'est-ce qui vous restera ?
Plein d'autres faces nord.
Très belle question. Peut-être être très heureuse ?
Parce que vous ne l'êtes pas ?
Pas forcément. Se sentir heureux. Arrêter d'avoir des tracas continuels. Par exemple, avoir une période où on peut se sentir simplement bien.
Et ça ne vous arrive pas ?
C'est très rare. Vous savez bien que la vie actuellement n'est pas facile. Simplement, même si vous n'avez pas vous de problème particulier, il y a une situation mondiale qui ne peut que vous rendre inquiet et malheureux. Enfin, moi, c'est comme ça que je le sens. Je ne peux pas être heureux en voyant des SDF. Je ne peux pas être heureux en voyant des enfants à Belleville, tiens, qui sont atteints du saturnisme. On ne peut même pas les loger. À côté de chez moi.
Voilà, je suis toxicomane depuis une dizaine d'années. Actuellement, je suis sur un programme méthadone pour m'en sortir. Mais bon, je suis séropositif, donc je sais que bon, je vivrai pas jusqu'au-delà de 50 ans en calculant au plus long. Mais s'il y a une chose que je voudrais faire avant de mourir, c'est de partir aux Indes pour finir ma vie là-bas. Puisque une chose qui coûte là-bas 10 francs le gramme et qui est à 90%, on la paye 800 francs le gramme ici et elle a 10%. S'il y a une chose que j'aimerais avant de mourir, c'est partir aux Indes pour pouvoir faire ce que j'aime et ce que j'aime faire en toute impunité, en ayant la qualité et un prix raisonnable pour une plante en fait qui ne coûte rien. Bon, actuellement, la méthadone m'évite la délinquance. Ça m'a permis d'avoir un studio, ça me permet de travailler, etc., d'être comme tout le monde. Mais je me vois pas vivre sans opiacés. Donc, si je sais que je dois mourir, d'ailleurs, c'est prévu avec mes parents, si un jour... les médecins me disent qu'il me reste plus longtemps à vivre, ben je partirai aux Indes et je me finirai là-bas. Voilà, c'est ma dernière volonté avant de mourir.
Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à cul nus, dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent au nid truffé de bulles.
Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si le soleil est froid, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon job dans les coins stos bizarres.
Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre. Ah ben j'en ai eu mieux, j'en ai eu presque. Ou les sept maladies qu'on attrape là-bas, le bon ni mauvais, ni me ferait de peine. Si, je savais que j'en aurais l'éternel.
Et il y a aussi tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît, le fond vert de la mer où valsent les brins d'algues, sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères, et les baisers de sel, que ceci, que cela, la belle que voilà, mon ourson, l'Ursula.
Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux, j'en dis pas plus, faut bien rester révérencieux.
Je voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé les roses éternelles, la journée de 2 heures, la mer à la montagne, la montagne à la mer, la fin de la douleur. Voilà, la fin de la douleur. Les journaux en couleur, tous les enfants contents. Alors, la fin de la douleur, tous les enfants contents.
Et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes, des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs, tant de choses à voir et à entendre, tant de temps à attendre, à chercher dans le noir.
Et moi, je vois la faim qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras de grenouille bancroche.
Je ne voudrais pas crever, non monsieur, non madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort, je ne voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort.
Sans mettre jusque-là, est-ce qu'on s'en sera vraiment mis jusque-là? On y pense et puis on oublie. Bouquet de voix aujourd'hui, bouquet de gens, bouquet de vie et d'envie, à partir du poème de Boris Vian, « Je voudrais pas crever ».
Avant de mourir, je voudrais voir que tout le monde ait du travail et un abri. C'est ça le plus triste pour nous, qui sommes vieux et qui avons connu autre chose. Et ce qui est le plus triste, c'est que les gens manquent de travail. Et ils n'ont pas d'abri. Et n'ont rien pour manger, pas assez. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
Et vous, madame ?
Pareil. 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 C'est pareil.
D'ordre plus personnel, j'aimerais que tous les gens de ma famille, qui sont tous un petit peu dans le malheur, réussissent et soient plus heureux. Parce que je trouve que la vie devient vraiment moche maintenant. Vraiment, vraiment. On n'a plus envie de vivre. Vous savez, ça ne nous fera pas de peine de mourir, au contraire. Mais ce qu'on voudrait voir à nos enfants et petits-enfants, c'est que j'en ai 4 petits-enfants, 3 filles et 1 arrière-petit-fils. Et je voudrais bien qu'ils soient plus heureux que ceux qui sont en ce moment.
Ben moi, je dis comme madame, hein, exactement pareil. Que tout le monde soit heureux, que tout le monde ait du travail, que tout le monde... Ah oui, ben oui, c'est tout. Hein. Qu'il n'y ait pas de chômage, qu'il n'y ait pas tout ça. Hein. Qu'il n'y ait pas tant de chômage comme,
et puis
comme
pas
on en voit.
Pas, pas tant qu'ils détournent de l'argent quand les autres crèvent de faim. Voilà. C'est ça honteux.
Oui.
Ces gens qui détournent de l'argent, des milliards et des milliards. Et puis à nous, sur nos retraites, on nous reprend toujours quelque chose un peu. Ça fait déjà 2 fois qu'on nous a pris, qu'on va nous reprendre encore. Alors là, c'est pas plausible.
Je voudrais pas mourir sans avoir fait quoi ?
Avoir un enfant.
Mmh.
Être enceinte. Avoir un bébé, accoucher. On connaît tout ce qui se passe. Voilà. Vous avez quel âge ?
19 ans.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire avant de crever ? Eh bien, faire du bien déjà. Aider les gens qui sont dans le besoin. Voyager, surtout voyager. Voyager, voir le monde, faire le plus de bien qu'on peut. Voilà, comme ça au moins on laisserait une bonne action avant de mourir.
Avant de mourir ? Tout au moins à faire... un bon repas et puis une bonne partie d'amour, puis c'est terminé.
Ce serait votre rêve.
Ouais, on n'en parle plus. Ma foi sur l'avenir, bien fou qui se fiera, tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. C'est du Racine, n'est-ce pas?
Vous connaissez un poème de Boris Vian?
Non. C'est pour mourir.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là?
Là, je vais casser la croûte.
À 3h de l'après-midi.
Ben oui, ben j'ai fini un déménagement, puis oui, j'ai pas le temps de manger, alors je vais manger un petit bout. Dans un porc. Voilà. Puis après, je rentre chez moi.
Je ne voudrais pas mourir sans avoir fait l'amour. C'est tellement bon de faire l'amour. Mourir en faisant l'amour. Ça me ferait plaisir. C'est mon rêve.
Et vous faites quoi, là ?
Ben là, je m'ennuie parce que j'ai personne avec moi. Je voudrais bien avoir une petite vendeuse. Vous amuserez tous les deux dans le frigo.
C'est quoi votre métier ?
Poissonnier. C'est un beau métier.
Je voudrais pas crever avant d'avoir lassé mes chaussures.
Laissez tes chaussures où ?
Avant d'avoir lassé mes chaussures, les avoir mis à mes pieds, sorti dans la rue, avoir admiré la vie et le soleil et les femmes. Toutes nues, je les veux toutes nues. Avant de mourir. Je pense que la mort est une chose très très belle et il paraît que... Il paraît que la mort est le moment le plus jouissif de la vie. J'ai lu ça dans un livre.
Donne les sources.
Jean-Paul Hans, qui disait que le moment le plus agréable de la vie, c'était le moment de la mort. Contrairement à tout ce qui a été dit auparavant.
Pour moi, je voudrais pas crever sans avoir connu Dieu. En fait, je pense que... C'est une question essentielle parce que on vit dans une société de plus en plus où on ne croit plus en rien, il y a une perte totale des valeurs et moi je pense que le dernier instant de ma vie, j'aimerais avoir cette foi que certains ont pu l'avoir à l'époque et qui aujourd'hui manque terriblement à la société. Alors moi c'est vraiment renouer avec une foi, enfin trouver... Un médiateur entre moi et Dieu, juste le dernier instant de ma mort, ce serait ça.
La mort n'existe pas, c'est l'homme qui l'a inventé, preuve de sa vulnérabilité. Henry Miller.
J'ai perdu une grosse partie de ma famille, enfin moi, disons par mes parents, par des histoires qu'on m'a racontées pendant la guerre. Et c'est vrai que ma mère m'a transmis cette peur de la mort, surtout quand j'étais petite, puisque c'est là où les angoisses se forment. Après on les concrétise, on arrive à les surmonter, mais petite c'était terrible. Enfin je me souviens d'une histoire où ma mère disait « mais on meurt jamais ». parce qu'en fait, notre corps se mélange à la terre, on donne une petite pousse, la petite pousse est mangée par la vache est mangée par l'homme, enfin bon. Et alors j'ai sorti, bah alors en mangeant une carotte, je peux manger Hitler. Et il y avait plein d'histoires comme ça qui forment des fantasmes avec des sorcières la nuit, des... est-ce que je vais me réveiller le lendemain, est-ce que je vais continuer à exister. Mais ça c'est petit, après je crois qu'on arrive à surmonter tout ça. Mais c'est vrai que petit, la peur, la mort fait très peur. Après, on la surmonte et on vit avec, sans penser à... C'est comme si on oubliait un peu pour pouvoir vivre.
Eh bien, justement, avant de crever, je voudrais savoir, précisément. Et je pense que... je ne sais plus qui disait qu'il faut deux vies. Il en faudrait une pour apprendre à vivre et la deuxième serait, en somme, consacrée à utiliser ses connaissances. Et je pense que Boris Vian n'a pas eu cette chance parce qu'il est mort très jeune. Et c'est sans doute... Ce qu'il faisait dire ça, il a eu bien l'impression, il a eu le pressentiment qu'il allait sans doute crever avant de savoir. Ce qui est la pire chose qui puisse arriver à un être humain. Mais savoir c'est quoi? Voilà la question. Et l'avantage d'un homme comme moi qui a 60 ans d'épaisseur de vie, c'est que justement on commence à avoir une petite idée de vers quoi on doit chercher. Mais c'est très long. Simplement arriver à être soi-même. C'est-à-dire, comme disent les orientaux, manger quand on a faim et dormir quand on a sommeil, ça n'a l'air de rien, mais c'est très difficile.
Je ne veux pas mourir sans continuer à faire de la recherche. Parce qu'on n'arrête jamais. Ça serait mourir, se faire mourir soi-même, que d'arrêter son travail, sa propre recherche. Qui nous passionne, je dis encore. Nous sommes des passionnés. La mort, elle peut faire peur. Mais moi, bon, elle ne me fait pas peur. Pourquoi ? Parce qu'on a de la famille, on a des enfants, on a des petits-enfants. Et que, bon, elle ne fait pas peur, la mort. Pourquoi avoir peur ? Au contraire, tout le monde se recycle dans la mort. Hein. Et puis dans la mort, il y a des choses un peu... Les gens me posent souvent la question un peu terrible. Qu'est-ce qu'on devient après ? Ben, je dis, c'est fonction des insectes qui vous débitent. Ce qu'on appelle des nécrophages, qui mangent la chair. Des petits bousiers, par exemple, qui vous rongent et qui vous laissent que les os dans n'importe quel cimetière.
Crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en dis pas plus, il faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé les roses éternelles. La journée de 2 heures, la mer à la montagne à la mer, la fin de la douleur, les journaux en couleur, tous les enfants contents et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs. Tant de choses à voir et à entendre, tant de temps à attendre, à chercher dans le noir. Et moi, je vois la faim qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche et qui m'ouvre ses bras de grenouille bon croche. Je ne voudrais pas crever, non monsieur, non madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort. Je ne voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort.
Et vous, vous ne voudriez pas crever sans avoir fait quoi ?
Oh, vous savez, Pérec, avant de mourir, avait dit, voilà, si je dois mourir dans quelques temps, voilà ce que j'aimerais absolument faire. Et s'était rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'il ne pouvait plus faire. Et moi, c'est un peu ça. Ce que j'aimerais faire, je ne peux plus le faire maintenant. J'espère vivre très longtemps, mais ce que j'aurais aimé faire, c'est écrire et, par exemple, c'est trop tard. D'autres enfants, j'en ai 3, j'aurais bien aimé faire d'autres enfants. Vous savez, ça va à l'encontre de Boris Vian, ça, qui n'aimait pas tellement faire des enfants, lui. Hein, il disait, oh, le monde est foutu, enfin, c'est... Il est très bien lu, ce poème, par Reggiani. Beaucoup mieux que par moi. D'ailleurs, j'ai dit, un Z, tout à l'heure, il y a aussi... J'ai dit, il y a Z aussi, c'est ridicule. Il y a aussi, c'était voulu, une liaison à Boris Vian. Voilà.
Et vous faites quoi ?
Je suis responsable financier d'une entreprise. Et je suis en congé maladie, c'est pour ça que je suis dans la rue aujourd'hui.
Merci.
Voilà.
Il y a aussi Pérec, il y a aussi les conseillers économiques, il y a aussi la grinçante grâce, toujours vive, de Vian.
Boris Vian a fait un poème dans lequel il dit « Je voudrais pas crever sans avoir fait ». Il donne toute une liste de choses qu'il aimerait faire avant de crever. Et vous, ça serait quoi ?
Si tout le monde savait se faire comprendre, il n'y aurait pas tant
votre réponse, c'est quoi? Vous voudriez mourir sans faire quoi?
Sans faire de testament.
Voilà, merci à tous et à toutes. C'était une... derrière les fagots de la basse, j'y suis, je voudrais pas crever. C'était un reportage de Christelle Loigereau de 11 janvier 1995. Eh oui, réalisé par Laurane Thomas. Et puis les éditions québécoises Allusifs ont réédité en 2008 une version illustrée par une vingtaine d'artistes du recueil « Je voudrais pas crever » de Boris Vian. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique « Émission là-bas si j'y suis ». Vous pouvez réécouter cette émission, vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. Dimitri Gronoff et Eric Maviel étaient à la technique aujourd'hui. Koy Nguyen et Raphaël Moutière ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot. Et Catherine Pinto attend vos messages au répondeur de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37. Vous l'avez entendu. Il est 16h sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour la basse. J'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Stéphane Leneuf. Salut.
Nicolas Sarkozy au chevet d'Haïti, un mois après le séisme. Le président de la République est arrivé à Port-au-Prince. C'est aux Haïtiens de définir un véritable projet national, a-t-il expliqué. Il doit annoncer la contribution de la France à la reconstruction du pays, normalement confirmer l'annulation de l'intégralité de la dette d'Haïti envers la France. Cela représente 56 millions d'euros. L'ancien numéro 2 militaire de l'ETA, Ariette Aguirre, condamné à 10 ans de prison par le tribunal correctionnel de Paris. Condamnation pour association de malfaiteurs à visée terroriste et détention d'armes. La 16e chambre du tribunal a également prononcé contre l'Espagnol une interdiction définitive du territoire français. Il avait été interpellé en 2005 avec deux autres membres d'ETA dans la périphérie d'Aurillac, dans le Cantal. Le missile Mistral, découvert aujourd'hui près d'un village des environs de Bourges, était une maquette. Elle ne contenait pas de charge explosive. C'est ce que fait savoir le ministère de la Défense. Le fabricant du Mistral à Bourges, filiale du groupe d'aéronautique et de défense EADS, a confirmé que cette engin correspondait aux maquettes inertes qu'il utilise. La commission de développement durable de l'Assemblée a adopté à la surprise générale un amendement. Il vise à mettre un terme au monopole des taxis parisiens vers les aéroports de Roissy et d'Orly. Ses auteurs sont trois députés UMP. Ils font valoir qu'actuellement des taxis non parisiens qui viennent de banlieue ne peuvent pas desservir les aéroports d'Île-de-France. Écoutez la réaction du secrétaire général CFDT des taxis parisiens, Abdel Galfi.
C'est la mort du taxi. Simplement. Et on revient à ce qui a été préconisé par M. Attali. La profession va réagir. S'il y a ce qu'ils appellent monopole, on ouvre à tout va. Donc n'importe qui peut faire du transport de personnes sans garantie pour la clientèle transportée. Vous prenez un chauffeur qui s'est endetté sur 7 ans en achetant une licence à 175 000 euros, 180 000 euros. Et du jour au lendemain, on lui dit que ta licence ne vaut plus rien. Qu'est-ce que vous pensez que cette personne va faire? Il va y avoir des réponses violentes. Parce qu'il y va de notre survie, tout simplement.
De son côté, le gouvernement défendra en séance publique le maintien de cette réglementation. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Relations avec le Parlement, Henri de Rincourt. Les raffineries de Total bloquées par une grève aujourd'hui. Les salariés du groupe répondent à l'appel de cesser le travail lancé par les syndicats. Ceci en solidarité avec les salariés de l'usine de Dunkerque qui doit fermer ses portes. Le taux de grévistes est de 60 à 80%. Les raffineries tournent en débit minimum. Par ailleurs, 12 des 41 députés pots de carburant sont également touchés par ce mouvement. À Dunkerque, le directeur des ressources humaines a rencontré l'intersyndicale et il a confirmé que Total allait créer un centre de formation et un centre d'assistance technique sur le site des Flandres en compensation de la fermeture de l'usine. Christian Estrosi, de son côté, va signer avec Renault une convention. Elle permettra un prêt de 100 millions d'euros pour la production de voitures électriques à l'usine de Flins dans les Yvelines. Le ministre de l'Industrie a également annoncé que Renault avait pris l'engagement que la part des composants français dans cette voiture passerait de 40 à 70% et ceci après deux années de production. D'autre part, le ministre de l'Industrie recevra demain les représentants du personnel et de la direction du site Philips de Dreux qui doit fermer ses portes. Une soixantaine de salariés de l'imprimerie Hélio Corbeil en banlieue parisienne retiennent dans leurs ateliers trois dirigeants. Ils réclament un moratoire sur un plan de licenciement. Ils prévoient la suppression de 55 emplois dans l'entreprise. Enfin, retenez que Rachida Dati est devenue avocate aujourd'hui lors d'une cérémonie cérémonie à la cour d'appel de Paris. C'est au milieu de 52 avocats promus et dans une salle d'audience bondée comme jamais que l'ancienne ministre de la Justice a prêté serment. L'actuelle députée européenne et ancienne garde des Sceaux n'a fait aucune déclaration. En revanche, elle a passé beaucoup de temps à sourire en tournant son regard plusieurs fois vers les photographes.
L'Afrique enchantée.
Vous en avez assez de l'hiver ?
On y travaille.
Vous en avez assez de la crise ?
On y travaille.
Écoutez, l'Afrique enchantée. Tous les dimanches, nos fétiches travaillent gratis pour vous.
L'Afrique enchantée, tous les dimanches, à 17h sur France Inter.
Merci, le service public de radiodiffusion.
France Inter présente Fantastic Mr. Fox, un film de Wes Anderson, actuellement au cinéma. Bienvenue dans l'univers fantastique de Mr. Fox. Sa vie est fantastique, sa femme est fantastique. Ses voisins, trois fermiers prêts à tout pour le capturer, ne sont pas si fantastiques. Mais ils vont bientôt découvrir que ce renard n'est pas n'importe quel renard. Retrouvez Fantastic Mr. Fox dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter,
la différence.
16h05 sur France Inter, on repart en musique avec Frédéric Lodéon.
Bonjour Stéphane.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous. Un grand pianiste et chef d'orchestre va être célébré. Pour une fois, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est pas comme hier. Non, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Christoph Eschenbach. Donc, 70e anniversaire de ce pianiste né en Allemagne, à Breslau, exactement. Et aujourd'hui, c'est la Pologne. Le 20 février 1940, il a étudié le piano. Il a gagné le premier prix au concours Clara Askill à Lucerne, ce qui est un concours très, très difficile et très envié. Il a commencé à travailler avec Karajan, qu'il a vraiment poussé, recommandé, qui a enregistré avec lui, donc un pianiste devenu rapidement chef d'orchestre, qui a une importante discographie. Il a dirigé avec beaucoup de talent l'Orchestre de Paris, maintenant il va s'en aller à l'Orchestre National de Washington. On lui souhaite évidemment une belle continuation de carrière là-bas. Et puis on le célèbre, je l'ai dit, à la salle Pleyel. C'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 février, 4 concerts pour ce maestro ambivalent, bivalent au moins, avec la direction et le piano, qui aime bien jouer avec les musiciens de l'Orchestre de Paris et d'autres aussi. Donc aujourd'hui, et puis demain, ça le plaît à Paris à 20h, Berlioz, la Symphonie Fantastique, c'est une des premières œuvres qu'il a dirigées et enregistrées pour la télévision. Il y aura aussi Waltraud Meyer, une grande cantatrice qui donnera la mort de Cléopâtre, cantate des Berlioz, toujours le samedi 20 à 17h. Mozart, il va jouer et diriger des concertos de Mozart, Christoph Eschenbach, et puis le 20, concert du gala à 20h, et Christoph Eschenbach avec des musiciens fameux comme Gidon Kremer, Yo-Yo Ma, Simone Barthaud, de la musique de chambre du plus haut niveau. 20h donc samedi aussi et samedi avant, c'est samedi, c'est 17h l'après-midi les concertos. Hein. Voilà, 17h les concertos de Mozart et puis le soir, concert de gala, musique de chambre. Voici tout de suite Christoph Eschenbach dans la deuxième symphonie de Robert Schumann, Allegro Molto, Vivace. Et je dirais que c'est une symphonie de résilience, c'est un terme à la mode en ce moment. C'est-à-dire c'est un moment où Schumann était très mal et il s'est reconstruit petit à petit au fur et à mesure de l'écriture de cette œuvre et on sent comme une libération extraordinaire et exemplaire, je dirais, dans l'Allegro Molto Vivace que voici.